Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Médias Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Des agents de sécurité communautaire circuleront bientôt dans les rues de Fort Liard dans le cadre d'un projet pilote. L'Association agroalimentaire territoriale lance sa toute première campagne d'adhésion. De nouveaux changements ont été annoncés à la haute direction de la fonction publique des territoires du Nord-Ouest. Au total, 6 sous-ministres et directeurs généraux ont été remplacés, et ce, depuis le mois de mai. La Rainbow Coalition de Yellowknife est en pleine campagne de financement dans le but d'acquérir un nouvel édifice. Et finalement, on se remémore cette 40e édition du festival Folk on the Rocks avec Thomas Chabot. Des agents de la sécurité communautaire circuleront bientôt dans le hameau de Fort Lear dans le cadre d'un projet pilote mis sur pied par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest qui sera conçu et géré par les dirigeants de la collectivité. Déployé sur 3 ans et financé à hauteur de 100 000 $ par année, ce programme vise à étudier les approches alternatives à la sécurité et à la prévention du crime. Un appel de déclaration d'intérêt a été transmis aux dirigeants des collectivités en avril 2021. Fort Liard devient la première collectivité à intégrer le programme. Comme l'indique l'administrateur principal du hameau de Fort Liard, John McKay, un premier agent sera embauché cet été. Il aura la tâche de développer la logistique du programme, mais également de développer des liens avec les résidents de la collectivité.
I think it's very important that they're aware and recognize the cultural differences in the community. Speaking Sous-Slavey is definitely necessary.
John McKay, administrateur principal de Fort Liard, explique que la collectivité se munira d'agents qui sont bien au fait des distinctions culturelles des résidents de Fort Liard. Il sera nécessaire que ces agents puissent s'exprimer en langue Sous-Slavey. Bref, ces agents proviendront sans doute de la région du Decho. Concrètement, les agents de la sécurité communautaire feront un travail complémentaire aux agents de la GRC. Ils n'auront pas l'autorité d'appliquer la loi, mais répondront plutôt à des préoccupations concernant des activités non criminelles. En bref, comme l'explique M. McKay, le travail de ces agents consistera à s'assurer que les résidents sont en sécurité et qu'ils se sentent en sécurité.
For example, checking up on elders, making sure they're safe in their home. If they need anything, get somebody to help them. If somebody's having an issue, say with intoxication, making sure they get a safe place to stay, helping the youth live a healthy lifestyle.
Les nouveaux agents de la sécurité communautaire de Fort Liard pourront, par exemple, s'assurer de la sécurité et du sentiment de sécurité des aînés de la collectivité, explique John McKay. Ils pourront également intervenir auprès de personnes qui ont trop consommé afin de s'assurer que ces personnes soient en lieu sûr. Ces agents pourront également intervenir auprès des jeunes et promouvoir un style de vie sain. Au terme de ce projet pilote de 3 ans, Fort Liard a pour objectif d'implanter ses agents de la sécurité communautaire de façon permanente. Les producteurs agricoles de l'ensemble des territoires du Nord-Ouest sont appelés à s'unir pour garnir les épiceries des collectivités. L'Association agroalimentaire territoriale, qui a été fondée en 2021, lance ce mois-ci sa toute première campagne d'adhésion, qui s'adresse aux producteurs de toute taille et de toutes les collectivités dont les activités sont vouées à la vente. Comme l'explique le directeur général, Kevin Wallington, l'association compte déjà sur l'engagement d'entreprises de Hay River, d'Inuvik, de Yellowknife et de Fort Smith, qui ont participé jusqu'à maintenant à son développement.
The organization is there to support anybody who's involved in processing, distributing, producing, food, and doing so with an entrepreneurial mind in looking forward to building a business.
L'organisation est là pour appuyer quiconque est engagé dans la transformation, la distribution ou la production d'aliments dans un esprit entrepreneurial, explique Kevin Wallington, directeur général de l'Association agroalimentaire territoriale.
So it doesn't matter how small or how large anybody who's interested in pursuing food in the Northwest Territories and doing it as a business, is we are there to support and encourage them in whatever way we can.
Peu importe la taille, nous sommes là pour les encourager de toutes les manières possibles, indique-t-il. Bref, l'organisme s'adresse à tous les producteurs où qu'ils se trouvent.
So really, we're not limiting anybody in terms of what our expectation is further up, you know, into the sawtooth. There's lots happening there. There's things happening in Nuvik with the greenhouse. They're doing all kinds of cool, innovative things. So really, as an organization, we want to do everything we can not to limit regions, but to really just support them and say, what is it that you'd like to achieve?
Nous ne limitons personne en matière d'attente. Plusieurs choses se passent dans le Satou, par exemple, et également à Inuvik avec les serres, indique M. Wellington. Nous voulons savoir ce que les gens des collectivités souhaitent accomplir. Aux yeux de l'association, une culture de l'agroalimentaire serait déjà en branle au territoire du Nord-Ouest. En citant à maintes reprises des initiatives mises sur pied dans la capitale, M. Wellington fait valoir que la production d'aliments ne se limite à aucune région et à aucun climat.
We can grow food anywhere. You know, we can grow food anywhere. We can find a way. There's lots of innovative ways to do it. There's also lots of natural ways that we, you know, people have been growing food for thousands of years, and so we can do that as well. And so, you know, things like having greenhouses, not necessarily just to produce food, but maybe even to cover over areas to extend the season, or find ways that we could use waste heat in our communities if it's using things like heat exchangers off of, you know, generators in communities. There's ways that we can think about being really creative.
On peut faire pousser des aliments n'importe où, indique Kevin Wellington, directeur général de l'Association agroalimentaire territoriale. Toutes sortes de techniques sont disponibles, incluant des techniques naturelles employées depuis des milliers d'années. Des serres, par exemple, peuvent permettre d'étendre la saison agricole dans certaines régions. On peut également trouver certaines façons de recycler l'énergie utilisée pour le chauffage, fait valoir M. Wellington. Bref, il y aurait plusieurs manières d'être créatif pour développer le secteur agroalimentaire dans les prochaines années au territoire du Nord-Ouest. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a manifesté son engagement face aux initiatives de l'Association agroalimentaire territoriale. L'industrie agroalimentaire dans les territoires du Nord-Ouest est un secteur important qui contribue à la diversité économique, a indiqué la ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, Caroline Vazonek, dans un communiqué de presse émis cette semaine par l'association. Madame Vazonek y indique avoir hâte de travailler avec l'association et ses autres partenaires afin de contribuer à solidifier les bases sur lesquelles reposent les occasions d'affaires, la formation et le partage du savoir en matière d'agriculture. La première stratégie agricole mise en place par un gouvernement des territoires du Nord-Ouest date de 2017. Cette stratégie inclut la publication d'un plan de production alimentaire qui s'étend de 2017 à 2022. De nouveaux changements ont été annoncés cette semaine à la haute direction de la fonction publique des territoires du Nord-Ouest, ce qui porte à 6 le nombre de hauts dirigeants qui ont été remplacés depuis le mois de mai au gouvernement. Sandy Calgutkar et Rita Mueller ont respectivement quitté leur poste de sous-ministre des Finances et de sous-ministre du ministère de l'Éducation, la Culture et de la Formation. Elles laissent place à William Mackay et à John MacDonald. Dans un communiqué de presse émis le 19 juillet, on souligne que Sandy Calgutkar quitte ses fonctions pour un départ à la retraite. Rita Mueller aurait, pour sa part, quitté la fonction publique des territoires du Nord-Ouest. William Mackay se joint ainsi au ministère des Finances après avoir travaillé au gouvernement du Nunavut, notamment à titre de sous-ministre de l'Exécutif et des Affaires autochtones du Nunavut. Avant de se joindre cette semaine au ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, John MacDonald était sous-ministre adjoint à l'Environnement et au Changement climatique du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles. Ces deux nominations s'ajoutent aux 4 changements annoncés le 10 mai à la haute direction de la fonction publique des TNO. On apprenait alors la nomination de 3 nouveaux sous-ministres au ministère des Affaires municipales et communautaires, à l'administration des terres et à la Société générale d'habitation des TNO. On annonçait également la nomination d'une nouvelle directrice générale à la Société générale d'habitation des TNO. La première ministre Caroline Cochrane avait alors indiqué à Média Ténois par courriel que ces quatre nominations s'imposaient en raison des départs de Tom Williams et de Sylvia Ehner de la fonction publique des TNO. De façon plus large, Mme Cochrane a indiqué que plusieurs départs à la retraite étaient attendus dans les prochains mois et les prochaines années. La fonction publique à travers le Canada connaît un nombre de départs à la retraite plus élevé que la normale, en particulier au niveau de la haute direction, avait-elle écrit. Dans les prochains mois et les prochaines années, nous commencerons à voir un certain nombre de hauts dirigeants prendre leur retraite, ce qui nécessitera des changements comme celui-ci, a-t-elle également précisé. Alors qu'elle célèbre son 10e anniversaire, la Rainbow Coalition de Yellowknife souhaite élargir ses activités au sein de la communauté LGBTQ+, avec l'acquisition d'un nouveau bâtiment. Une campagne de financement lancée cette semaine a pour objectif d'amasser 75 000 $ pour l'achat de ces nouveaux locaux qui devront permettre à l'organisme de répondre à un intérêt croissant pour ses programmes, tant du côté des jeunes que des adultes des territoires du Nord-Ouest. J'ai pu en discuter avec Aditi Balaji, qui est coordonnatrice des programmes d'été à la Rainbow Coalition.
Pourquoi est-ce que la coalition a besoin d'un nouvel édifice? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire?
Alors, cet espace qu'on est dans maintenant, c'est notre Rainbow Youth Center. Alors, c'est un espace que les jeunes peuvent venir ici et participer dans nos programmes. Les programmes d'été, les programmes d'après l'école. Alors, on trouve que maintenant, on a beaucoup de demandes pour ces programmes. Alors, on a vraiment pas assez d'espace pour tous les jeunes qui veulent accéder à nos programmes. Alors, on trouve que si on avait un nouvel espace, un nouvel édifice, on peut grandir les programmes qu'on offre maintenant.
On parle de combien de jeunes environ, là?
C'est vraiment difficile à dire, comme chaque semaine, c'est un peu différent, mais on trouve qu'il y a parfois certains événements qu'on a 30 jeunes ici dans ce petit espace. Alors, il n'y a vraiment pas d'espace pour tous les programmes. Et une autre chose qu'on veut mettre le focus sur, c'est offrir plus de programmes pour les personnes qui ne sont pas des jeunes. Parce qu'on trouve que maintenant, on offre des programmes pour les jeunes de, je pense que c'est 12 à 30 ans. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées qui veulent accéder à ces programmes. Alors, si on avait notre propre édifice, on pourrait offrir plus de programmes.
Vous auriez des exemples de programmes qui pourraient être offerts, qui sont réclamés là, de la part d'adultes de 30 ans et plus?
Alors, on trouve qu'il y a beaucoup de demandes pour les groupes vraiment de partager nos propres expériences pour les personnes qui sont parties de cette communauté ici. Alors, si on avait cet espace, il serait plus facile pour les adultes à trouver, des autres adultes qui partagent les mêmes expériences. Alors, par exemple, on pourrait offrir comme des cercles de partage ou des workshops pour beaucoup de, comme comment écrire des articles, juste pour socialize.
Est-ce que jusqu'à maintenant, peut-être la municipalité de Yellowknife ou le GNWT, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, ont manifesté un intérêt là, à vous aider dans cette campagne de financement-là?
Ils n'ont pas fait des promesses de qu'est-ce qu'ils veulent nous aider, mais on espère qu'ils ont cette... Non, alors franchement, non, maintenant, jusqu'à maintenant, mais il y a certains MLA qui, je pense qu'ils ont dit qu'ils veulent appuyer ces campagnes, mais...
La campagne vient tout juste de commencer, si je comprends bien. Là, ça fait combien de temps que cette campagne-là est en branle?
Vraiment, il fait seulement à peu près une semaine, deux semaines.
Donc, c'est
nouveau, vraiment nouveau.
Cette campagne-là, de quelle façon est-ce que vous comptez amasser cet argent-là? Quelles activités vont être proposées? Quels bailleurs de fonds, par exemple, ont été approchés?
Mm-hmm. Alors maintenant, on a deux gros événements qu'on va faire dans les prochains mois. Par exemple, le premier, c'est le 50-50 raffle qu'on a. Alors, c'est une loterie que les gens peuvent acheter des billets pour 25 $ et on a un grand prix de 25 000 $ Alors, on va ramasser des fonds. Alors, le 25 000 $ qui vient à nous et 25 000 aux gagnants. Et on a aussi une auction, mais c'est tout en ligne. Alors, il y a beaucoup de personnes, à Yellowknife, beaucoup de compagnies qui veulent offrir les services. Alors, on va avoir cet encore en ligne pour que les personnes peuvent acheter et tous les fonds qu'on amasse vont bien ici au Rainbow Coalition.
J'ai posé la question à votre collègue Damien Benoît il y a deux semaines, mais comment est-ce que vous décririez Yellowknife? Il y a beaucoup de demandes. Vous dites cet organisme-là évolue depuis 10 ans. Sur le plan de l'ouverture à la culture, disons, de 2SLGBTQ+, comment est-ce que vous décririez Yellowknife? Comment est-ce que cette ville-là se distingue des autres villes des territoires ou du Canada?
Mm-hmm. Alors, moi, j'habite à Yellowknife depuis 15 ans, alors c'est un peu difficile pour faire la comparaison d'autres villes, mais j'ai entendu parler que Yellowknife, c'est vraiment ouvert et acceptant. Alors, je pense que ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de monde ici au Rainbow Coalition. Quand on a commencé, on avait seulement une personne qui travaille ici comme full-time. Alors, et maintenant, on a 10 personnes qui travaillent ici. Oui, notre évolution, c'était très rapide parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au Rainbow Coalition, à nos programmes et tous les services qu'on offre. Alors, pour le futur, on a beaucoup de plans, beaucoup d'idées, mais on trouve que notre évolution, c'est encore pas assez parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui veulent accéder à ces services. Alors, c'est tous basé sur les demandes qu'on voit dans Yellowknife. Beaucoup de personnes trouvent qu'ils peuvent vivre dans une façon authentique et ils peuvent partager leur identité parce que les personnes ici sont très acceptantes. Et je pense que le Rainbow Coalition, on est responsable pour ces attitudes qu'on trouve en Yellowknife parce que le plus que nous offrons des programmes que on est visible dans la communauté, on trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes ils sont inspirés, ils sont confortables à partager leur vraie identité et à trouver les autres personnes qui partagent ces expériences, vraiment.
C'était Aditi Balaji, coordonnatrice des programmes d'été pour la Rainbow Coalition de Yellowknife. Le point de contrôle de la route 5, qui est situé à la frontière entre l'Alberta et les territoires du Nord-Ouest, près de Fort Smith, sera retiré à partir du 1er août 2021. Ceci mettra fin au système de laissez-passer qui est présentement nécessaire pour accéder au parc national Wild Buffalo, tout comme au secteur du lac Pine et au réseau de sentiers de la rivière Salt, bref, à ces destinations qui se trouvent du côté albertain de la frontière. Dans un communiqué de presse émis le 21 juillet, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest souligne que Fort Smith compte actuellement l'un des taux de vaccination parmi les plus élevés au TNO. Plusieurs milliers de festivaliers étaient rassemblés la fin de semaine dernière pour l'événement le plus rassembleur des territoires du Nord-Ouest. Le 40e anniversaire de Folk on the Rocks s'est déroulé sous le soleil dans une ambiance festive à laquelle les Ténois n'étaient plus habitués. Médias Ténois étaient sur place pour couvrir l'événement avec l'émission spéciale L'Allonge qui était diffusée en direct à partir du site sur les ondes de Radio Taïga. Thomas Chabot était à l'animation avec José Audet. Il est avec nous pour nous en parler. Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Alors Thomas, vous avez pu vous entretenir avec plusieurs artistes et membres de l'équipe de Folk on the Rocks. Racontez-nous ça un peu, quelles impressions est-ce que vous avez recueillies?
Je pense que si on avait à mettre un mot sur l'ambiance de Folks cette année, ça serait le soulagement. Vous étiez sur place, Thomas, vous avez pu le constater de vos yeux comme une bonne partie de l'équipe de Médias Ténois, mais les gens étaient soulagés de pouvoir finalement goûter un semblant de vie normale après plus d'un an et demi de pandémie. On est encore dans cette pandémie, mais les restrictions, eh bien, s'allègent au fil et à mesure, et ce sentiment, eh bien, semblait partagé par tous, autant devant la scène que sur la scène, ou même derrière la scène pour les organisateurs de Folk on the Rocks. Mélangeant ça avec les 40 ans du festival, et la recette était faite pour une édition gagnante, car pour plusieurs, Folk on the Rocks, c'est la fête de l'été au territoire du Nord-Ouest. Je vous propose bien justement d'écouter la joie dans la voix de Miranda Curie lorsqu'elle parle du festival.
I'm great. It's Folk on the Rocks. It's the best weekend of the summer.
It's amazing. Best weekend, the best party, as you told me in the last interview.
C'est la meilleure fin de semaine de l'été, c'est ce qu'en pense l'auteur, compositrice, interprète Miranda Curie, qui était au micro de l'émission spéciale L'Allonge de Radio Taïga. Thomas, Folk, c'est pas seulement un événement musical là, pour plusieurs, c'est carrément ancré dans les traditions familiales.
Et oui, et on peut penser notamment à la très célèbre famille Gildé au territoire du Nord-Ouest, Jay et Lila, qui ont commencé très jeune à performer sur la scène de Folk. Jay Gildé qui nous disait en entrevue que la première fois qu'il avait joué devant une foule, c'était à 6 ans. Son père, eh bien, il y avait déjà montré les instruments et certaines de ses compositions, eh bien, il a pu les faire sur scène à 6 ans. C'est quand même remarquable. Mais ils ne sont pas les seuls artistes à avoir un fort lien avec le festival, non. Grace Clark aussi a une longue histoire avec le festival. Écoutons-la.
Yeah, I would say Folk on the Rocks raised me. I grew up in Yellowknife. My family and I would always come to Folk on the Rocks during the summer. It's a tradition of ours. And I started playing actually at the festival when I was playing fiddle. I started playing with my sister and a couple of our friends. We had this fiddle group and we performed a few times at Folk. And then once I started writing my own music, I've played in a couple like youth showcases and things like that. And now I'm finally having my own set, which I'm really excited about this weekend.
Yay!
L'artiste Grace Clark, et je vous cite ce qu'elle vient de nous dire, je dirais que Folk on the Rocks m'a élevé. J'ai grandi à Yellowknife avec ma famille, nous allions toujours à Folk on the Rocks durant l'été, c'est vrai, c'était vraiment une tradition. J'ai commencé à jouer au festival quand je jouais du violon avec un groupe qui était composé de ma sœur et de mes amis, dit-elle. Quand j'ai commencé à composer mes propres morceaux, j'ai pu commencer à faire quelques concerts pour la visibilité de la jeunesse. Finalement, j'ai mon propre spectacle cette fin de semaine. Et donc, c'était une Grace Clark ravie là, qui était assise à votre table. Là, on parle de l'ambiance festive de Folk on the Rocks. La sécurité n'est pas mise de côté, là, bien au contraire, Thomas.
Non, et ça fait quelques années déjà que le festival se dote d'un safety squad, une équipe de sécurité qui s'assure du bien-être des festivaliers, mais aussi des bénévoles. Pour ceux qui étaient sur place au festival cette fin de semaine, vous ne pouviez pas les manquer. Par exemple, eh bien, durant cette édition, certains bénévoles distribuaient des verres d'eau dans le jardin de bière, d'autres donnaient des bouchons d'oreilles devant la scène principale ou donnaient aussi des moyens contraceptifs parmi la foule pour s'assurer eh bien, de la sécurité de tout le monde. Un espace sanctuaire avait été aussi mis sur place pour les festivaliers qui ne s'en sentaient pas bien ou en sécurité. Je vous propose de laisser Nancy McNeil du Safety Squad nous expliquer la raison derrière l'importance d'avoir une telle équipe sur le site d'un festival.
So the Safety Squad, we started, I think it was 5 years ago.
Okay.
We started doing this because obviously we want everyone at the festival to feel safe. But yeah, specifically when there's a drinking situation, there are often people who forget to respect each other and to respect each other's boundaries. And nobody deserves to deal with a festival where they might be touched or approached in a way that is disrespectful, rude, or even dangerous. No one deserves that.
Nancy McNeil, la fondatrice du Safety Squad. Je vous traduis. Nous avons débuté l'équipe de sécurité il y a 5 ans. Nous avons débuté ce projet parce que nous voulions que tout le monde au festival puisse se sentir en sécurité, spécialement lorsqu'il y a des événements qui découlent de la consommation d'alcool. Certaines personnes sous l'effet de l'alcool, oublie de respecter les limites des autres festivaliers, explique Nancy McNeil. Personne ne mérite de faire affaire avec un festival dans lequel il y a possibilité de se faire approcher ou toucher de manière irrespectueuse, déplacée ou dangereuse, ajoute Nancy McNeil. Thomas, un autre point spécial de ce 40e anniversaire de Folk on the Rocks, c'est une collaboration spéciale et vraiment très créative là, entre des groupes de l'extérieur du territoire, les groupes Cartel Madras, Partner et Calais Cardinal, qui étaient finalement isolés tous ensemble durant leur quarantaine obligatoire.
Oui, et le moindre que l'on puisse dire, c'est que ces artistes semblaient ravis de ce projet. En pré-entrevue durant la longe, eh bien, Calais Cardinal nous racontait que cette colocation eh bien, leur a permis de faire aller leur esprit créatif en mélangeant leurs styles bien distincts. Calais Cardinal, qui est plus dans le folk, on peut écouter Partner, qui est un mélange, disons, de pop, funk, pop, folk aussi, comme je viens de dire. Et du côté eh bien, de Cartel Madras, c'est du rap. On a pu les voir justement durant leur concert à Folk on the Rocks. Lucy Niles, d'ailleurs, du groupe Partner, qui était en entrevue avec nous durant la longe, nous a appris que Cartel Madras et bien ont même des talents culinaires cachés. Il semblerait que les 6 membres de la maison se sont régalés durant ces 2 semaines. Mais pour revenir à la création musicale qui en est découlée, et bien laissons Lucy Nice l'expliquer.
Yeah, it was incredible. It was something I was really looking forward to. I didn't know exactly how it would sound, but I knew it was going to sound like definitely interesting and cool. And as soon as I met them all, I knew we were going to do something good because they're so talented.
Lucy Niles du duo Partner qui dit que le festival a été incroyable, que c'était que cette collaboration entre artistes était incroyable. C'était quelque chose que j'attendais avec impatience, dit-elle. Je ne savais pas exactement comment ça allait sonner. Je savais que il y allait avoir des sonorités très intéressantes, très cool. Dès l'instant que j'ai rencontré les autres musiciens là, dans la maison, j'ai su qu'on allait faire quelque chose de bon, car ce sont toutes des artistes très talentueuses. Et c'était donc un spectacle qui a été présenté le mardi le précédent, Folk on the Rocks. J'y étais, donc des pièces originales et également des compositions, là, des collaborations entre les artistes.
J'ai manqué ce spectacle, Thomas. Comment c'était justement cette collaboration?
Ah, ben, je vous en témoigne. Ce sont des styles, hein, Cartel Madras, qui font vraiment du hip-hop, là, du...
Gunda rap.
Du Gunda rap, ouais, qui tire peut-être pour les vieux comme moi, là, sur le gangster rap. C'est vraiment excellent. Partner qui faisait du folk, là, avec deux guitares, Callie Cardinal avec sa voix soul, qui ont mélangé tout ça là, pour faire des reprises, pour faire leurs propres pièces, mais également des compositions originales là, qui sonnaient, je sais pas trop comment décrire ça, peut-être Robert Glasper ou les gens qui se rappellent de Thievery Corporation. Bref, c'était des bons musiciens et on sent qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble durant leur isolement.
Déçu d'avoir manqué ça, mais le projet collaboratif sera disponible sur le site de WAMP, le Western Arctic Moving Pictures.
Je suis content de l'apprendre, Thomas. Thomas Chabot, merci beaucoup pour ce compte-rendu de l'édition 2021 de Folk on the Rocks.
Je vous en prie, Thomas Etier.
Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission, Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info, une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.